autour de la question. Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, en français, s'il vous plaît, en cette journée internationale de la francophonie, avec Hugo Violas à la réalisation, pour un voyage planétaire à la découverte des volcans et à la rencontre des hommes qui vivent au plus près de ces géants de feu, près de 800 millions de personnes tout de même à travers le monde, et autant de liens fusionnels tissés entre eux et leurs volcans, pour le pire, mais aussi et surtout pour le meilleur, loués pour leur puissance bienfaitrice, créatrice, leur fertilité, craint évidemment pour leurs éruptions, leur colère, leur pouvoir destructeur. Et si nous avions tous quelque chose à apprendre de cette alliance originelle entre les hommes et leurs volcans, et si se jouait aussi là, au pied de ces éruptifs et imprévisibles géants de feu, un autre rapport au monde et à la vie sur Terre? C'est ce que nous propose de découvrir le géologue et volcanologue Arnaud Guérin, dans un ouvrage magnifique et une série documentaire sur Arte, des volcans et des hommes. Nous sommes également en compagnie de David Perrier, l'un des réalisateurs de cette fascinante série autour de la question « Pourquoi vivre au-dessous du volcan ?» Bienvenue non pas en enfer, mais peut-être bien au paradis. Bonjour Arnaud Guérin.
Bonjour.
Merci d'être en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu à Caen, dans votre Normandie. Vous êtes géologue, volcanologue, fasciné par les volcans. Vous avez arpenté la planète pour les photographier en 20 ans. Vous en avez exploré plus de 150 sur tous les continents. Et vous avez eu envie, Arnaud, de nous faire partager non seulement cette volcanique passion, mais aussi et surtout les rencontres humaines que vous avez faites, vécues avec tous ceux qui vivent justement au pied de ces géants de feu. Les volcans et les hommes, c'est le titre du superbe ouvrage texte et photos que vous publiez aux éditions Glénat en coédition avec Arte, des volcans et des hommes, c'est le titre de la fascinante série documentaire visible en intégralité sur Arte qui nous entraîne de Sicile en Tanzanie, d'Hawaï jusqu'en Indonésie pour découvrir les liens fusionnels tissés entre les hommes et leurs volcans. Pourquoi avoir choisi justement cet angle-là, Arnaud Guérin, cet angle humain, si humain?
Eh bien, écoutez, cette série, elle est née d'une rencontre avec Thibaut Camura, qui est le producteur de cette série. Il m'a entendu parler à la radio, comme quoi la radio ça crée des liens. On s'est tout de suite rencontrés après cette émission de radio et on a commencé à plancher sur l'idée de faire une série documentaire sur les volcans. Et on s'est aperçu très rapidement, moi qui suis scientifique, que les volcans étaient toujours abordés un petit peu de la même façon, c'est-à-dire par l'aspect soit destructeur, c'est quelque chose qu'on a beaucoup dans notre culture, soit par l'aspect événementiel des éruptions ou par les phénomènes. Et moi qui voyage depuis très longtemps sur les volcans, qui emmène aussi des gens voyager sur les volcans, j'ai toujours un point qui est un point extrêmement fort dans ces voyages, c'est la rencontre avec ceux qui vivent au pied de ces volcans. Et j'ai tout de suite proposé à Thibaut d'angler le sujet, c'est-à-dire de traiter le sujet sur justement cette relation qui est une relation, cette dualité entre le côté qui peut être totalement destructeur, ça peut remettre en cause quasiment la vie sur Terre, le volcanisme, et puis le fait que ça fasse vivre entre 500 et 800 millions de personnes chaque jour grâce aux bienfaits qu'apportent les volcans et à tout ce que le volcan apporte aux hommes qui vivent à leurs pieds.
Oui, le volcan, source de vie aussi, hein, et pas seulement de mort. Bonjour David Perrier.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes Merci. Un des réalisateurs donc, de cette série des volcans et des hommes. Alors pour vous, je crois que c'était une découverte, à la fois celle des volcans et celle des hommes, la rencontre avec tous ces hommes qui vivent au pied des volcans.
Ouais, moi ça a été une découverte, je connaissais pas les volcans plus que n'importe qui. Après moi j'ai l'expérience de tournage, l'expérience de voyage, j'ai travaillé sur plusieurs thématiques, notamment aussi pour Arte. Donc j'ai complètement découvert et ça a été très vite fascinant. Pour un réalisateur, c'est spectaculaire.
Alors, il y a les images, c'est spectaculaire.
C'est tout le temps spectaculaire. Et après, cette approche humaine, elle nous a rapidement portés, en fait. Portés vers plein de découvertes, en fait.
Les rencontres, 18 mois de tournage, hein,
ouais,
à travers le monde.
En tout, oui, ça a pris 18 mois pour la fabrication, en fait, de la totalité de la série. Mais, ouais, donc c'est étonnant et en même temps plein de contraintes, mais voilà, on était tout le temps porté
par une énergie,
par,
vous m'avez
par
dit.
L'énergie, ouais, c'est ça en fait. L'énergie que transmettent en fait ces gens qu'on a rencontrés.
Et qui vivent, ouais. Et qui vivent au pied du volcan. On en reparlera hein, de cette énergie parce que elle doit être à la fois tellurique hein, de la terre, Arnaud Guérin, et puis en même temps peut-être aussi de savoir à quel point hein, tout est éphémère et tout peut s'arrêter d'un instant à l'autre autour de la question pourquoi vivre au-dessous des volcans. Je propose d'abord d'écouter la bande-annonce de cette série diffusée sur Arte jusqu'au 12 avril, mais qui est disponible en intégralité sur le site arte.tv.
Le Lingay est notre Dieu. Nous nous soumettons à lui et nous le prions. C'est notre tradition à nous, les Maasai.
Pour moi, le mont Bromo est ma famille. On l'apparente ici à notre grand-mère. Elle nous fait vivre. Tout vient du volcan.
Je me suis dit, nous sommes en train de mourir. La mort arrive maintenant.
Il faut être conscient de la force des volcans. Ces montagnes seront toujours là.
Conscient de la force, de la puissance de ces géants de feu, on se rend compte même sans les images. Alors imaginez avec les images, avec vos photos. Arnaud Guérin, tous ceux qui vivent au pied des volcans sont évidemment conscients de cette énergie, de cette force, de cette puissance extraordinaire, Arnaud.
Alors, c'est ce qui donne cette façon d'aborder la vie qui est tout à fait propre aux gens qui vivent au pied des volcans. Je donnerai un exemple, c'est quand vous allez à Naples, cette ville qui est complètement folle, qui a une énergie absolument incroyable. D'ailleurs, c'est extrêmement fatigant d'être à Naples parce qu'il y a cette vie qui grouille en permanence. Et ces gens qui profitent de la vie et qui profitent de l'instant présent sans penser au lendemain, parce qu'à Naples, ils ont devant eux un volcan qu'on connaît tous qui s'appelle le Vésuve, mais ils ont aussi dans leur dos un super volcan, un volcan avec des capacités de destruction absolument gigantesque qui s'appelle les Champs-Flégréens. Ils vivent d'ailleurs sur ces dépôts volcaniques, sur cette roche. La ville est construite avec cette roche. Ils doivent beaucoup à ces volcans, mais ils savent qu'ils peuvent tout perdre du jour au lendemain. Donc ça donne une vie qui est aux antipodes de nos vies un petit peu pépères, avec une assurance vie et en regardant le futur avec crainte. Là, on sait qu'on peut tout perdre. Donc souvent sur les volcans, les gens ont cette forme de fatalisme qui fait que ça. J'aime dire souvent que ça exauce le goût de la vie, mais réellement c'est
comme
ça.
Comme un exhausteur de goût, oui. Mm-hmm.
Exactement, ouais. ça rend la vie plus savoureuse, tout simplement parce qu'on en profite immédiatement.
Pourquoi est-ce qu'il y a tant de volcans? Il y en a partout sur la planète, Arnaud Guérin?
Alors en fait, il n'y en a pas partout sur la planète, ça dépend de la dynamique de notre planète. Vous savez qu'il y a des plaques tectoniques et les volcans sont situés souvent à des frontières de plaques, soit quand des plaques s'écartent. Là, c'est ce qui se passe pour l'ouverture des océans, c'est 70% du volcanisme et il est sous la mer, sous les océans, sauf à certains endroits comme en Islande ou comme dans la dépression du Danakil, dans la corne de l'Afrique. Un autre contexte, c'est quand le plancher d'un océan passe sous une plaque continentale, ça va donner ce qu'on appelle une zone de subduction. C'est des termes compliqués mais que l'on retrouve tout autour de la ceinture de feu du Pacifique et qui vont donner des volcans plutôt explosifs. Et puis il y a un troisième endroit qui est beaucoup plus rare à l'échelle de la planète qui va donner des volcans, c'est des endroits où on est au milieu d'une plaque tectonique et on a une sorte de chalumeau qui va remonter, qui vient des profondeurs de la Terre, quasiment du noyau, 2900 km de profondeur et qui va remonter, c'est ce qu'on appelle un point chaud. Ça, on connaît ça très bien à La Réunion, par exemple, ou à Hawaï.
Alors, c'est une réalité, hein, ces volcans quotidiennes, on l'a dit, pour entre quoi 500 et 800 millions de personnes sur la planète qui ont des liens, alors des liens de sang, hein, dans tous les des liens de vie, des liens de mort avec un volcan.
En fait, ce chiffre, il évolue en permanence, parce que si on regarde les gens qui vivent au plus près des volcans, c'est à peu près 500 millions de personnes. On peut élargir le cercle à 800 millions de personnes quand on regarde les conséquences qui peuvent être des conséquences secondaires. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a des éruptions, comme l'éruption de 2010 en Islande, d'un volcan qui s'appelle Eyjafjallajökull.
De l'avoir prononcé pour moi.
qui a mis par terre complètement notre système de communication pendant quasiment une semaine. C'est une toute petite éruption. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on attend, les volcanologues islandais attendent une grosse éruption du point culminant de l'Islande, qui a un nom aussi accouché dehors, qui s'appelle Orefatiokutl. Et si ce volcan entre en éruption, eh bien... des gens très pessimistes disent que ça peut couper les relations à travers l'Atlantique Nord pendant plusieurs semaines.
Et oui, pour nous qui sommes interconnectés et si dépendants de nos connexions, les volcans sont un autre risque aussi aujourd'hui.
Oui, alors donc ça veut dire que, pour reprendre mon propos, en fait, on peut élargir le cercle jusqu'à chez nous pour ce qui concerne les volcans islandais. Vous voyez, on est à plus de 2500 km de l'Islande et pourtant on peut avoir des conséquences qui sont des conséquences qu'on a déjà connues puisque en 1783, il y a un volcan qui rentre en éruption dans le sud de l'Islande qui dégage des volumes absolument considérable de gaz volcanique qui montent dans la haute atmosphère, qui vont polluer tout l'ouest de l'Europe à cause des vents dominants qui traversent l'Atlantique et qui vont donner une période de refroidissement. Et certains volcanologues, avec des historiens qui travaillent de manière tout à fait sérieuse, disent que c'est une des premières causes, des premières révoltes qui ont abouti à la Révolution française. Donc vous voyez que le volcanisme, ce qui est intéressant quand on travaille sur les volcans, et on l'a vu à travers cette série, c'est de voir que c'est un élément fondamental de notre environnement quotidien à nous terriens.
Et que ça fait notre histoire, les colères des volcans peuvent faire notre histoire. On va rester là pour le moment sur le continent européen avec une première question venue de Naples justement dont vous parliez, en fait elle est soulevée par mon complice autour de la question, le chercheur et journaliste scientifique Antonio Fischetti qui revenait d'Italie.
Alors moi j'étais à Naples récemment et il y a donc des millions de personnes qui vivent sous le Vésuve et aussi sous les champs phrygiens, donc de l'autre côté de la baie. Et il y a effectivement une peur liée au volcan, mais aussi une attirance. C'est une sorte d'attirance-répulsion, d'amour et de crainte. Et j'aimerais savoir si on retrouve ça sur tous les continents, si Arnaud Guérin, qui a exploré plus de 150 volcans, a retrouvé cette dualité, fascination et crainte.
Votre réponse, Arnaud Guérin ?
Eh bien, écoutez, c'est vrai qu'on a toujours cette dualité. On l'a en nous-mêmes parce que c'est ce qui rend l'exploration des volcans toujours passionnante, parce qu'on a toujours envie d'aller voir plus loin. C'est un côté totalement mystérieux. Mm-hmm. C'est un côté totalement mystérieux pour les populations qui vivent là. Quand nous avons tourné en Sicile, dans les îles éoliennes, et en particulier à
Stromboli,
les Stromboliens, ils vous disent, ils ne vous parlent pas du volcan, ils parlent de Idu. Idu, en sicilien, ça veut dire « lui ». Celui qui vit au bout du jardin, qui peut tout détruire, mais qui vous apporte des récoltes extraordinaires, qui vous apporte des olives avec un goût incomparable, celui qui vous apporte la vigne, etc. Quand vous habitez au pied de l'Etna, on parle de Mongibello. Mongibello, c'est le monte en italien et Djebel en arabe. C'est la synthèse de ce qu'est la Sicile. Ça veut dire la montagne des montagnes. Et ça, on le retrouve partout dans le monde avec toujours cette interrogation de savoir ce qu'il y a là-haut. C'est pour ça que, pour beaucoup de populations, on y a mis le siège de vie des dieux ou des divinités locales qui sont toujours importantes.
Parce que même pour les scientifiques que vous êtes, on y reviendra, Arnaud Guérin, il y a toujours plein de questions qui se posent autour des volcans, mais moi j'en ai une là, c'est une question, c'est pourquoi est-ce que finalement quand on pense volcan, nous, ici en Occident, en Europe, je sais pas, on pense à l'enfer justement, alors que quand on regarde votre série, quand on regarde vos images, quand on vous écoute, on se rend compte que c'est les deux, c'est la vie et c'est la mort. Pourquoi est-ce que nous voilà, notre image du volcan, elle est liée à l'enfer.
C'est simplement dans notre culture, le volcan est associé à ça. C'est-à-dire que c'est Vulcain, c'est Héphaïstos, c'est les forces des enfers. C'est toujours cette question qui est associée à des gaz qui sentent mauvais, etc. Donc on associe ça à quelque chose de négatif. Pour 80 ou 90% des populations dans le monde, le volcan et les dieux ou les divinités qui vivent dans les volcans sont des éléments qui sont des éléments positifs, avec toujours le bémol qui peuvent remettre en cause tout ce qu'on a construit pendant des siècles, voire des millénaires. C'est-à-dire que ça peut détruire des civilisations complètes, mais au jour le jour, ça vous apporte, eh bien, au Bromo, en Indonésie, sur l'île de Java, ça apporte 2, 3, 4 récoltes par an, alors qu'on est en altitude, et que normalement le climat donnerait péniblement une récolte. Donc vous avez toujours cet échange qui est fort.
Plus positif que négatif, c'est-à-dire qu'on risque effectivement de tout perdre et la mort, mais en attendant, tant qu'on vit, on est très très vivant.
J'ai qu'une envie personnellement, c'est d'aller vivre au pied d'un volcan. Vous imaginez, vous avez une montagne vivante, vous voyez la terre vivre tous les jours. Nous, quand on habite là, moi j'habite en Normandie, dans le nord de la France, la notion de terre planète vivante, j'entends pas beaucoup parler. Quand vous vivez au pied d'un volcan, mon copain Franco à l'Etna, quand il ouvre le volet le matin, il regarde pas s'il fait beau, il regarde s'il voit l'Etna.
C'est une terre vivante,
la boussole,
oui.
C'est la boussole des Siciliens.
Autour de la question, justement, pourquoi vivre au-dessus du volcan en Sicile? Allez, on va s'arrêter au pied de l'Etna, la montagne des montagnes. Vous avez tourné aussi, David Perrier. On écoute un extrait du film, donc, Etna, la montagne des montagnes.
Les Siciliens vivent depuis des générations au rythme de l'Etna. La montagne des montagnes, le Mangibello, comme on l'appelle ici. L'Etna est le plus haut et le plus actif des volcans d'Europe.
Je suis face à la plus jeune roche de la planète. Elle est encore toute brûlante, la preuve.
Sur ses flancs, les terres sont particulièrement fertiles.
Il y a une coulée de lave juste sous nos pieds.
Tout ça, c'est la lave de l'Etna.
Donc ce caillou, il est à l'origine de tout.
C'est l'origine de tout, oui.
Mais parfois, l'Etna représente une menace.
En un quart d'heure, tout a été recouvert.
Bienfaiteur ou destructeur, le volcan est le repère immuable de tout un peuple.
Vous écoutez RFI autour de la question.
Vesuvio, le Vésuve par le groupe Scapa Napoli sur RFI. Arnaud Guérin, le Vésuve, il est féminin ou masculin? L'Etna, c'est féminin ou masculin?
Alors l'Etna, c'est féminin. En Italie, il n'y a que le Stromboli qui soit masculin. Les autres volcans sont féminins et c'est le cas pour 95% des volcans de la planète. C'est vraiment associé à cette notion de matrice qui engendre la vie et qui donne la vie. Donc quand on parle de volcan, nous parlons de volcan en disant le volcan, on devrait dire la volcan en fait.
Oui, ça donnerait tout de suite une autre image autour de la question pourquoi vivre au-dessous des volcans. Nous sommes donc en votre compagnie, Arnaud Guérin, vous êtes géologue et volcanologue, en compagnie également du réalisateur David Perrier, qui a réalisé la plupart des documentaires de cette série sur Arte, des volcans et des hommes. Direction l'Indonésie maintenant, sur les pentes du Bromo, le volcan sacré de l'île de Java, auquel ses habitants rendent annuellement hommage et qui est actuellement en éruption.
En Indonésie, les habitants vouent un culte tout particulier au volcan Bromo.
Le bruit est vraiment infernal. Waouh !
En activité perpétuelle, ce volcan est sous haute surveillance.
On a estimé qu'en général, il pouvait gonfler de 10 cm quand il est en activité.
Une fois par an, les hommes qui vivent à ses pieds lui rendent une partie de ce qu'il leur a donné.
On l'apparente ici à notre grand-mère. C'est elle qui nous donne à manger. Elle nous fait vivre. Tout vient du volcan.
Il le prie pour qu'il leur amène la vie plutôt que la mort.
Un petit peu hors du temps.
Comment tout un peuple se retrouve-t-il pour implorer les faveurs de l'imposant maître des lieux?
Arnaud Guérin, David Perrier, vous avez filmé cet hommage au volcan Bromos. C'est chaque première lune de juillet, c'est ça? C'est tout un peuple qui rend hommage à ce volcan?
Oui, c'est ça. C'est tout un peuple, toute une région en fait, qui à cette lune de juillet se réunit pour, comme l'expliquait Arnaud, rendre au volcan ce qu'il leur a donné en fait. C'est plusieurs cultures par an qui leur permettent de vivre avec ça. Et c'est là où on était au cœur de cette fameuse dualité où quand le volcan, on l'a vu, il est en activité, il recouvre toute la région de cendres. C'est-à-dire que les champs, les maisons, le bétail, tout est recouvert. Donc pour vivre, c'est intenable. Mais en échange, voilà, cette terre devient ultra fertile.
Ce sont les cendres elles-mêmes qui
voilà,
deviennent...
Et en fait, pour eux, ça devient un cadeau, quoi. C'est un cadeau. Et ils vont rendre, bon, avec des offrandes, comme ça, en jetant une partie de leur culture à l'intérieur. Comme ça.
Pour rendre hommage à ce volcan, à ce dieu Bromo, c'est ça, Arnaud Guérin?
C'est complètement ça. David a tout à fait raison. On a vécu pendant cette nuit du Quai Sodo, de la première lune de juillet, de la première pleine lune de juillet, on a vécu un moment... qui est un moment pour moi inoubliable, parce que à chaque fois, sur tous ces volcans, les gens nous ont donné les clés, nous ont amenés à découvrir au plus proche. Là, on était vraiment très proche de l'activité, et là, on découvre vraiment ce qui est l'écosystème du volcan, c'est-à-dire comment les gens vivent toute l'année et comment ils gèrent le risque. Parce que le risque est réellement présent. Les volcanologues, il y avait 1 million de personnes presque sur la lèvre du cratère ou au pied du volcan, alors que les volcanologues étaient à 4 km cachés dans leur observatoire volcanologique.
Les gens, les Indonésiens de l'île de Java, ils vont beaucoup plus près que les volcanologues eux-mêmes, hein, c'est ça?
Oui, parce qu'ils ont une relation qui est tout autre. Alors bien souvent, on a tendance à l'opposer à la démarche scientifique. En fait, elle est totalement complémentaire parce que les gens qui vivent là, ils savent décrypter comme personne la vie de la Terre, la vie du volcan. Et donc, ils l'écoutent, ils savent interpréter, même s'ils l'interprètent avec des histoires qui sont totalement différentes de ce que nous scientifiques, on peut interpréter. Mais en tout cas, c'est une démarche qui est totalement complémentaire. Et là, on s'aperçoit qu'on a vraiment cette vie qui est... Il n'y a pas le volcan d'un côté et les gens de l'autre. Il y a la caldeira du Tengger avec des gens qui vivent là, au rythme du volcan. Et depuis 5 jours, le volcan est en éruption. Il est en train de saupoudrer.
Là, en ce moment ?
Oui, c'est une petite éruption. Et il est en train de saupoudrer la région de cendres. Et ces cendres, en quelques semaines, grâce au climat, grâce à l'eau qui va tomber, ces cendres vont devenir un engrais naturel extraordinaire. Et si l'éruption ne va pas plus loin, ça va devenir une chance pour les gens qui vivent là. Bien sûr, si l'éruption devient une éruption importante, ça peut remettre en cause, y compris le fait pour eux de vivre dans la région.
Oui, donc c'est vraiment, enfin, ça engendre du coup complètement une autre relation au monde, à la terre vivante, vous l'avez dit, mais à la vie, à la mort. On se dit que oui, tout peut être pris du jour au lendemain, et quand on vit au bord du volcan, on le sait, on le sent, on vit avec.
Oui, vous savez, dans l'Antiquité, il y avait le philosophe grec Empédocle qui allait sur les bords du cratère de l'Etna réfléchir aux origines du monde. Il y a laissé sa vie puisqu'on a retrouvé une de ses sandales. Donc on ne sait pas si c'est le volcan qui a pris sa vie ou si c'est l'homme qui a choisi de se jeter dans la gueule du monstre. En tout cas, il y a toujours cette relation qui nous... La grande question qui nous intéresse tous, c'est quelle est l'origine du monde dans lequel on vit. Et c'est vrai que les volcans donnent une temporalité, donnent une respiration, parce que quand vous êtes sur les bords du Bromo, avec David, on faisait du son. David est très sensible à ça. Eh bien, on avait un son qui était un véritable réacteur d'avion ou de fusée qui était dans le cratère. On avait ces gens qui étaient sur le bord, qui jetaient leur récolte dans le cratère pour obtenir la bienveillance du volcan. Et puis, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que dans ce geste symbolique, il jetait. Mais derrière, il y avait aussi les populations les plus pauvres de la région qui étaient cachées dans le cratère, à même les flancs du volcan, à l'intérieur, dans les gaz, et qui récupéraient ces offrandes.
Pour récupérer les offrandes.
Complètement. Donc, donc en fait, la dévotion des uns nourrissait eh bien, les besoins primordiaux des autres.
Oui, on se dit que c'est des métaphores de notre condition humaine. Mmh. Et vous, David, donc pour arriver à prendre du son, ce qu'on sait, parce que parfois ça peut être très difficile en radio, quand il y a trop, il y a vraiment un son énorme, un bruit énorme.
Là, comme le dit Arnaud, c'était réellement un son de réacteur d'avion. Enfin, et donc là, quand on dit qu'on ressent la terre vivre, donc là, on est complètement...
Ah oui, voilà,
on a les pieds qui tremblent, on a les caméras. Bon, après, c'est des conditions globalement souvent difficiles pour le matériel. Nous, on s'adapte. Mais voilà, il y a tout ça qui est mélangé. Mais c'était un...
Vous avez eu peur, puisque c'était quand même parmi les premières fois sur le volcan, David Perrier.
Ouais. Moi, j'ai pas eu peur parce que les gens me rassuraient en fait. J'ai pas, comme on le dit en fait. Bon, on a fait un tour du monde comme ça, de rencontres, d'histoires humaines, où à chaque fois ils nous transmettaient cette sérénité, en même temps de fragilité, de choses, mais jamais de peur, en fait.
On n'est pas tout seul face au volcan, on est avec les autres, avec ceux qui vivent là, qui en vivent.
Ouais.
On comprend hein, d'ailleurs que les volcans soient des divinités, hein. C'est ce qu'on voit dans vos films, dans votre livre aussi, Arnaud Guérin, Les volcans et les hommes, partout en Amérique latine, comme en Afrique. Alors en Afrique, justement, sur le continent africain, il existe un volcan unique au monde, c'est le volcan sacré des Maasai dans le rift est-africain en Tanzanie, extrait du film documentaire que vous y avez tourné, David Perrier, pour la série sur Arte « Des volcans et des hommes », un volcan en terre Maasai.
En Tanzanie, l'Old Wanyolangai fascine par les nombreux mystères qu'il recèle.
Waouh ! Ah, c'est exceptionnel.
J'ai vraiment du mal à croire que c'est de la lave. Hein.
Il y a très longtemps, quand les premiers explorateurs sont venus ici, ils pensaient que c'était de la neige vu de loin.
À ses pieds, sur les rives du lac Natron, le peuple Maasai vénère le dieu qui sommeille dans son cratère fumant.
Je peux vous donner ma bénédiction.
Isolés et difficiles d'accès, ces célèbres laves blanches ne s'offrent qu'aux plus téméraires.
J'ai jamais vu une pente aussi raide.
On est bientôt arrivé.
Extraordinaire lave blanche du volcan sacré des Maasai. C'est unique au monde, ça, Arnaud Guérin.
C'est une lave unique au monde, oui. Elle s'appelle natrocarbonatite, donc elle est elle jaillit dans le cratère d'un volcan, donc qui s'appelle l'Old Wanyolangai, la montagne sacrée des Maasai.
Et elle est blanche. Elle est blanche, cette lave.
Alors elle est noire quand elle est liquide.
Oui.
Mais elle n'a pas de rougeoiement, c'est-à-dire qu'à l'œil nu on voit pas le rougeoiement. On a l'impression de voir un petit peu comme de la boue. De nuit, pas de rougeoiement non plus, ou quasiment pas. Et ça a la fluidité de l'huile d'olive. Et pour nous géologue, c'est une lave qui est froide, donc 500-550 degrés. D'habitude, les laves sont entre 800 et 1200 degrés.
Ah d'accord, 500 degrés, c'est froid pour un géologue et un volcanologue.
Non, on a des notions de... Nous, les géologues, on a des notions de temps qui sont en millions d'années et des notions de température pour les roches qui sont tout à fait particulières. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ensemble des laves sur la planète sont des laves qui sont constituées en majorité de silice. Et là, en l'occurrence, on a des carbonates, c'est-à-dire du calcaire. Et donc, ça donne une capacité à cette lave. Dès qu'elle refroidit, elle devient blanche immaculée. Et alors, ça donne...
C'est ça, c'est pour ça qu'on a pu croire que c'était de la neige, parce que quand elle est froide, elle est blanche, elle est comme de la neige.
Exactement. Alors David peut témoigner, j'étais comme un fou là parce que
vous voyez ces premières laves de carbonatite.
C'était la première fois de ma vie que je voyais ça. Juste pour un mot, c'est que derrière, ça donne un relief qui est un relief tout à fait particulier, extrêmement pentu. Et là, vous pouvez même pas imaginer les conditions. Alors nous qui sommes devant la caméra, ça paraît relativement simple et pourtant c'était compliqué. Mais alors je peux vous dire que David et Stéphane qui faisaient les images, il faut vraiment leur rendre hommage parce que faire des images dans des conditions pareilles, avec des pentes pareilles...
Parce que les pentes, elles sont magnifiques hein, quand on les regarde. C'est extraordinaire ces paysages et effectivement cette forme de lave. Mais oui, il faut tenir dessus quand on tourne, David.
Ouais, c'est ça. Bon, ça a été une ascension de quoi, de près de 7 heures.
Ah, pour monter jusqu'en haut.
Voilà, et avec une pente qui est de plus en plus inclinée, en fait. Donc, on pense arriver, mais on n'est jamais arrivé. Donc, quand il reste 200 mètres, il reste 2 heures, en fait. Et c'est en permanence. Enfin, c'est en continuité, comme ça. C'est de plus en plus raide. Mais en même temps... Voilà, c'est vrai que c'était là pour le coup dangereux. C'est vrai qu'on a eu un petit peu peur, on a fait attention, mais voilà, c'est très risqué. Mais bon, porté par on a envie d'aller
par
au bout.
Par l'énergie du volcan par et l'énergie par les volcan, Maasai qui vous accompagnaient.
Et par Mwenga qui nous accompagnait, qui est un jeune Maasai qui non seulement intervenait dans le film, mais qui nous a accompagnés de bout en bout tous les jours. Voilà, et qui a été formidable.
Vous avez d'ailleurs sur place, David Perrier, enregistré avec les Maasai, puisqu'on parle de volcans, mais aussi et peut-être surtout de rencontres humaines, avec les Maasai qui vivent au pied du volcan, vous avez enregistré des chants sur place, vous nous en avez envoyé par des techniques modernes de MP3, on les écoute tout de suite. Vous y êtes là, David Perrier, j'ai l'impression, hein, je vous vois bien concentré. Ouais.
Non mais c'est vrai, et en plus, enfin, le lieu était formidable, c'était des cavités comme ça, où ça résonnait. En fait, ils nous ont fait des cadeaux en permanence. La série s'intéresse, évidemment, c'est des histoires d'hommes, et dans les histoires d'hommes, on s'intéresse à leur culture, on s'intéresse à tout, en fait, on a partagé leur vie. La nourriture, les moments difficiles d'ascension, comme la visite de village, ou ces moments-là, et qui sont des moments assez intimes pour eux, en fait. C'est un passage initiatique, en fait, qui est dans la culture Maasai. Et voilà, c'est des cadeaux, en fait, pour nous.
Mais on a l'impression que monter l'ascension au volcan, c'est aussi un peu certainement un moment initiatique, un moment de rencontre. C'est parmi des grands moments pour vous aussi, pour un volcanologue, en fait, un géologue, Arnaud Guérin.
Oui, en fait, c'est qu'en fait, on se retrouvait avec une passion commune, qui est cette passion des volcans. En entendant le chant Maasai, là, je suis complètement comme David, là, je me retrouve sur place. C'est vraiment ça, cette série documentaire. C'est qu'on peut faire des images de volcans, comme on en fait d'habitude, et faire des explications scientifiques. Mais si on ne donne pas justement ce côté culturel et ce côté où les gens du lieu vous donnent les clés pour aller découvrir ce que c'est réellement que le volcan pour l'humanité, en fait, on passe à côté du sujet. Et vraiment, ça a été des histoires vraiment humaines. Alors, il y avait déjà un voyage. On a vécu vraiment des choses absolument extraordinaires avec les trois équipes avec qui j'ai tourné sur l'ensemble de ces destinations, mais surtout avec les gens qui nous ont accueillis sur place et qui nous ont fait vraiment découvrir, mais qui nous ont... c'était cadeau sur cadeau. À un moment, on s'aperçoit. Et ça, c'était possible parce qu'on avait la même passion commune de cette vie de la planète. Et pour moi, les volcans, c'est vraiment ça. C'est vraiment, au-delà de l'aspect scientifique pur, c'est vraiment une relation au monde et une relation à la nature.
Ça change, et de les fréquenter, ça change d'habiter autour, évidemment, mais même de les fréquenter, d'y aller, ça, effectivement, ça change le rapport qu'on a, au monde, à la terre, et à la vie, à la mort.
Et à vos certitudes. Parce que je me rappelle, un des derniers tournages, c'était à Hawaï, on était avec un géologue, donc quelqu'un qui a le même cursus que le mien, et on lui posait la question, mais... Ta patronne, c'est qui? Tu travailles pour qui ici? Il me dit, mais ma patronne, c'est Pélé, la déesse du feu. Et c'est quelqu'un qui était totalement cartésien. Et on commence à discuter là-dessus. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'il était très proche des gens qu'on a côtoyés, des chamans qu'on a côtoyés au Guatemala, et qui rentraient en communication avec le volcan. Et chose extraordinaire, quand ils étaient en communication avec le volcan leur répondait et faisait des explosions et des éruptions.
Les alors chamans faisait... communiquaient avec le volcan.
Avec le volcan. Je peux vous dire que pour moi, qui suis un scientifique, alors vraiment cartésien et qui n'avait pas ce tropisme à ce côté nature qui est très fort, même si je le côtoie par ailleurs dans mon pays d'adoption qui est l'Islande, avec cette présence de la nature.
Et oui, grand pays de volcans, l'Islande.
Tout à fait. Mais là, ça remet en cause vos certitudes et vous apercevez qu'il y a une autre façon d'interpréter et de voir ce monde volcanique qui vous passionne. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire passer dans ces films.
C'est que le mystère, finalement, il se dévoile un peu pour vous, scientifiques, mais pas tant que ça non plus. C'est-à-dire que c'est tellement mystérieux, tellement énigmatique. C'est ça aussi qui fascine les hommes. Et au fond, il y a plein de manières d'approcher les volcans. David ?
Ouais, en fait, c'est une chose qu'on a souvent rencontrée. Les scientifiques travaillent vraiment avec les populations locales. Ça, on l'a rencontré en Nouvelle-Zélande, où il y a une forte communauté, enfin, une histoire avec les Maoris. Ils nous expliquaient qu'ils ne pouvaient pas faire l'un sans l'autre. Et ça, c'est quelque chose, enfin, Arnaud l'a aussi démontré, on en a souvent parlé. On se rend compte qu'en fait, on a des titres, on a des positions dans la vie, mais on ressent des choses tellement fortes et uniques, enfin, qui nous rassemblent en tout cas, qu'on les change.
Ça enlève les barrières. En tout cas, est-ce que par exemple, sur l'origine de ces laves uniques au monde, dans le volcan sacré des Maasai en Tanzanie, sur l'origine de ces laves qui blanchissent quand elles refroidissent, est-ce qu'il y a des hypothèses scientifiques ? Est-ce que les Maasai ont des versions ? Est-ce que justement, on peut jongler entre les deux, Arnaud Guérin ?
Un bon résumé de ça, c'est que quand vous voulez faire l'ascension du Langai, vous devez aller voir le Leibon, qui est le chef de village, et vous devez lui soumettre votre projet. Il va lire l'avenir dans une calebasse où il a des cailloux. Donc pour moi qui suis géologue, ça m'intéressait de voir quels étaient ces cailloux. C'est des cailloux qui venaient d'un petit peu partout dans la région. Et puis une fois qu'il est rentré en communication avec... c'est celui qui sait, hein, il rentre en communication avec les esprits, il leur soumet votre projet, et puis une fois qu'il a validé votre projet, il vous remet et il vous applique sur certains points de votre corps une matière minérale. Vous ne savez pas ce que c'est au départ. Et pour moi, je regarde ça d'un seul coup, et c'est de la cendre volcanique, c'est la cendre de la dernière éruption du Langai. Ça symbolise vraiment le lien qui existe entre les hommes qui vivent là et l'activité tellurique de la planète. Nous, on a l'impression de tout connaître avec notre technologie, avec notre démarche scientifique, avec nos appareils. En fait, on connaît vraiment pas grand-chose du fonctionnement de la Terre. Je vous rappellerai que la tectonique des plaques, on sait expliquer la tectonique des plaques depuis 1974.
Oui, c'est
donc c'est vraiment, vraiment pas grand-chose. Et qu'on a quasiment tout à découvrir sur les volcans. Donc, ça veut dire que on rencontre des scientifiques totalement passionnés qui se posent les mêmes questions. Je pense à Aline Pelletier qui était à La Réunion, qui est la directrice de l'Observatoire. Elle se pose aujourd'hui les mêmes questions. Est-ce que l'éruption va durer, pas durer? Est-ce qu'il va y avoir des dégâts pour les populations? Quel est le type d'activité? Est-ce que l'activité va évoluer dans le temps? C'est encore plein de questions qu'on se pose. Et ça, je trouve que c'est vraiment très porteur de sens parce qu'on l'aborde en fonction de nos cultures, en fonction de nos regards, de manière très différente. Et on voit que globalement c'est assez complémentaire et qu'on raconte la même histoire qui est une histoire de passion de notre petit caillou sur lequel nous vivons qui est notre planète Terre.
Et qui est vivante elle aussi autour de la question pourquoi vivre au-dessous du volcan. Je propose d'écouter la version de François M. The Atlas Mountain sur RFI. François qui chante les volcans.
Dansons sur un volcan, dansons sur un volcan, allons-y gaiement. Sur un volcan, allons-y gaiement. Tout en haut du cratère, observons les lumières des échauffements.
délicieusement. Le désir et le manque alimentent cette danse d'amants qui se vend. Si bien positionnés, ne pourront s'empêcher.
Sur un volcan avec François Envy Atlas Mountain sur RFI autour de la question pourquoi vivre au-dessous des volcans. Nous continuons de nous interroger avec le géologue et volcanologue Arnaud Guérin et le réalisateur David Perrier, l'un des réalisateurs de la série Des volcans et des hommes. Arrêt pour danser peut-être à Hawaï sur l'image d'un des volcans les plus actifs de la planète, Hawaï, les laves du Kilauea.
À Hawaï, le Kilauea est le volcan le plus actif de la planète. Il offre un spectacle unique.
C'est vraiment extrêmement émouvant de voir ça.
La lave qu'il déverse ne cesse de transformer l'île. Elle détruit des villages entiers.
Toutes les maisons qui se trouvent ici ont été recouvertes par la coulée de lave.
Et donnent naissance à des paysages lunaires.
Ah, ça c'est extraordinaire. On voit cette terre qui est en train de créer cet immense volcan.
C'est une expérience qui rend humble de venir jusqu'ici et d'en être témoin.
En suivant le parcours d'une coulée de lave, du sommet jusqu'à la mer, c'est toute l'histoire volcanique et humaine d'une île en perpétuel mouvement qui se dévoile.
Les paysages de cette île, les paysages d'Hawaï, Arnaud Guérin, ils sont façonnés, ils n'arrêtent pas de changer par les coulées de lave de ce volcan créateur et destructeur.
La preuve, nous habitions une maison sur les flancs du Kilauea et trois jours après notre départ, à un kilomètre de notre maison, la terre s'est ouverte et a débuté une des plus grandes éruptions de coulées de lave du 20e siècle, des 50 dernières années sur ce volcan. Donc on est vraiment dans une terre qui est en perpétuel mouvement et à Hawaï ça se sent. Alors on a eu la chance d'être avant cette éruption au moment où les lacs de lave étaient au plus haut et vous entendiez mon émotion ouais. dans l'introduction du film quand nous survolions en hélicoptère ces lacs de lave.
Ces images sont extraordinaires. Hein.
Ah ben je peux vous dire que c'est quelque chose. Hein. C'est ça aussi le volcan. Je dis souvent que le volcan, il faut voir un volcan une fois dans sa vie parce que ça change votre vie. C'est vraiment ça. C'est des émotions qui sont des émotions j'allais dire primordiales, qui permettent de pouvoir comprendre qu'on habite sur une planète vivante, qu'on n'est vraiment pas grand chose et que tout ça, ça bouge vite.
Et comment justement à Hawaï, comment vivent tous ces gens vraiment au bord du volcan? Des volcans, hein, parce qu'il y en a un autre, il y a aussi le géant d'Hawaï dans cette île qui est en perpétuel changement, reconstruction, suivant les coulées de lave et les éruptions.
Ouais, alors, ouais, pardon.
Il y a une
ville principale, en fait, qui s'appelle Ilo, donc qui est, à mon avis, située à un endroit où il y a moins de risques, apparemment, je ne sais pas. Mais après, on a rencontré des gens qui vivent sur la lave. Alors c'est un paysage, c'est un paysage unique, extraordinaire. Enfin voilà, c'est.
On ne sait pas si c'est terrestre ou.
Exactement. On est vraiment d'un coup, on est porté ailleurs. Mais voilà, on a rencontré ces gens qui vivent, qui construisent sur la lave. Donc ils voilà,
construisent sur la ville, ils sont prêts à reconstruire quand
voilà,
ça va
donc,
être détruit.
Donc c'est des villages comme ça qui disparaissent et qui réapparaissent. Les gens restent. Voilà. Et on parlait d'énergie tout à l'heure, c'est vraiment ça en fait. C'est ce qui les porte et c'est ce qui les fait vivre en fait et rester.
Alors, en étant à la fois, comment dire, scientifique et mystique, Arnaud Guérin, cette énergie, justement, vous pensez qu'elle vient quoi ? Qu'elle vient de la Terre, du volcan, de cette... ou du fait de savoir qu'on vit au bord du golfe, du volcan, et qu'au fond, c'est peut-être une sorte de métaphore aussi de la condition humaine, hein. On n'est pas grand-chose.
En fait, moi, je suis pas du tout mystique. et ce qui était amusant, c'était justement de pouvoir aborder avec un regard différent, voir comment ces gens abordaient cette notion du risque, parce que comme le disait David, ces gens ont tout perdu lors de la dernière éruption. Il faut voir que des quartiers entiers ont été détruits. Là, ils viennent à nouveau de tout perdre et on s'aperçoit que trois mois après, ils ont déjà reconstruit des routes et que certaines personnes conservent leurs droits de propriété. Ils vont construire 15 mètres plus haut sur la coulée de lave parce qu'ils savent que ça ne sera pas détruit la prochaine fois et que le climat va faire son boulot et va commencer à éroder la coulée et que dans quelques années, ils vont pouvoir replanter et ils vont pouvoir revivre. Et je me rappelle du témoignage d'une Hawaïenne, Pilani, là, qui habitait là. La maison n'avait pas été détruite. C'était la maison de sa grand-mère. Et quand la coulée de lave est arrivée, sa grand-mère avait demandé à tous les enfants de nettoyer la maison parce qu'elle devait bien recevoir Pélé, la déesse des volcans, la recevoir comme quand on reçoit un hôte de marque, et que si la lave faisait le choix de tout détruire, eh bien elle devait le faire dans les règles, c'est-à-dire les règles de l'accueil de la personne la plus importante de la région, qui est la déesse des volcans et la déesse du feu. Donc on est dans cette relation qui est une relation de respect et qui est une relation qui est porteuse de sens pour nos questions qui nous habitent, être humains sur la planète.
Absolument, et dont on a peut-être extrêmement besoin aujourd'hui, d'autant plus quand même, Arnaud Guérin, on va peut-être terminer là-dessus, que les volcans ne tuent pas tant que ça.
Alors oui, l'autre jour, il y a quelqu'un qui a réagi quand je disais ça sur une autre antenne. Mm-hmm. C'est vrai que ça ne tue pas beaucoup les volcans, contrairement à ce qu'on pense. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas dangereux. Mais depuis le 18e siècle, ça a tué un petit peu plus de 300 000 personnes. Si vous regardez un gros tremblement de terre, en un tremblement de terre, on tue quasiment autant de personnes. Si vous regardez les accidents de la route en France, ça tue énormément de gens. Et donc on s'aperçoit que les volcans, les hommes vivent auprès des volcans depuis les origines. Donc c'est peut-être les volcans qui ont donné le feu aux hommes. C'est une hypothèse qui est tout à fait envisageable. Ça veut dire que depuis ces dizaines de milliers d'années, eh bien, on s'est habitué et on est capable d'anticiper un certain nombre de phénomènes. Et puis derrière, il y a la démarche qui est la démarche scientifique. Et il faut voir qu'aujourd'hui, le travail des volcanologues est un travail absolument phénoménal et fondamental. C'est un travail qui se fait avec les populations pour pouvoir évaluer les risques et pouvoir évacuer les populations.
Et là, pouvoir aussi recueillir, vous l'avez dit, on va être obligé de s'arrêter, Arnaud Guérin, leur expérience auprès du volcan. Merci en tout cas de nous avoir fait partager tous ces liens entre les hommes et les volcans. Merci Arnaud Guérin d'avoir été en duplex depuis les studios de France Bleu à Caen. Merci à Christophe Ruffin sur place à la technique. Merci David Perrier d'avoir été en direct avec nous. Je vous renvoie à mes auditeurs à la fois sur la chaîne Arte, diffusion en intégrale jusqu'au 12 mai de cette fabuleuse série des volcans et des hommes. Et je vous renvoie aussi sur ce livre magnifique d'Arnaud Guérin, Les volcans et les hommes, coédité par Glénat et Arte, avec photos somptueuses et récits qui nous rapprochent vraiment, je crois qu'on l'a compris dans cette émission, pas seulement de l'enfer, mais bien peut-être du paradis sur terre, forcément éphémère. Merci. Et merci à la réalisation de l'autre côté de la vitre, à Hugo Violas et en coulisses à Juliette Brault. Nous vous donnons rendez-vous lundi, chers amis auditeurs, pour de nouvelles interrogations à partager ensemble. Merci de votre fidélité et de votre interactivité. Surtout, restez curieux. Gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure d'un prochain journal.